do que eu penso. É só ficar à espera. O amor não se procura, ele só aparece. Causa feridas que nem curam nem com o tempo. Mas se for genuíno, sempre.
É meia-noite. Rádio Alfa.
Bonsoir à tous. Un 1er mai apaisé en perspective, le renseignement territorial estime que les exactions s'annoncent limitées. Ce 1er mai ne présenterait pas de risque avéré en matière d'ordre public. Il ne prévoit pas d'action de blocage ou de dégradation. Les organisations syndicales ont décidé cette année de ne pas faire front commun et manifesteront chacune de leur côté. Les renseignements disent toutefois rester très vigilants sur la possible présence de Black Blocs, de collectifs anti-JO ou encore de mouvances pro-palestiniennes. La mobilisation pro-palestinienne dans les université française qui fait tache d'huile, le campus de Sciences Po à Menton dans les Alpes-Maritimes est désormais fermé jusqu'à nouvel ordre après l'occupation des locaux par des étudiants. Par sécurité, le site de Sciences Po Toulouse a lui aussi fermé ses portes à la mi-journée ce mardi. D'autres étudiants se sont mobilisés à Lyon, à Grenoble, à Dijon ou encore à Rennes. En parallèle, LFI dans le viseur des autorités, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot, et Rima Hassan, candidate aux élections européennes, ont été entendus par la police ce mardi dans le cadre d'enquêtes pour apologie du terrorisme après des propos liés à la guerre entre Israël et le Hamas, des convocations qualifiées de censure par l'ensemble du parti politique. On n'en sait désormais plus sur les mesures d'intérêts éducatifs pour les mineurs de moins de 16 ans. Le texte entrera en vigueur dès la rentrée des vacances de Pâques. Il est à destination des jeunes auteurs de dégradation, d'injures ou de troubles à l'ordre public. Ces travaux d'intérêts éducatifs consisteront en une activité de 20 heures, une réflexion sur le vivre ensemble et une action de soutien pédagogique impliquant la famille et l'établissement scolaire. Et puis un mot de foot et pas de vainqueur. Ce mardi soir, le Bayern Munich a concédé le nul à domicile face au Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Score final de partout. Le match retour dans la capitale espagnole aura lieu la semaine prochaine. En attendant, place au PSG ce mercredi. Les coéquipiers de Kylian Mbappé se déplacent à Dortmund dans l'autre demi-finale de cette Ligue des Champions. Coup d'envoi à 21h. Bonne soirée à notre écoute.
Passagem de nível com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passage à niveau, c'est dimanche 28 avril de 2024, effectivement. Ça fait 50 ans qu'il y a eu la révolution des aéros au Portugal et on va avoir le témoignage de Madame Christine Pires Beaune, députée apparentée socialiste et vice-présidente du groupe d'amitié France-Portugal, l'Assemblée nationale française. Le département 94, on va voir qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et 2024, trois années de gestion avec une majorité de droite, avec nous, Madame Fatia Aghoun, présidente du groupe Val-de-Marne en commun. On va continuer à parler du 25 avril, mais au sujet du livre La Révolution des œillets, regarde un correspondant du Monde à Lisbonne, édition L'Atelier. José Rebelle est passé chez nous ce matin. Ce moment doit être en train de déjeuner et de parler justement de l'avenir public. Changer de vie, la vie et l'œuvre de José Mário Branco, documentaire de Nelson Guerrer et Pedro Fidal, qu'on pourra voir au ciné Malraux de Bondy. Ça sera le 4 mai et on parlera également d'un concert à l'Olympia de Paris, le 8 mai, avec Pedro Brunhoz et surtout avec le groupe de Kent Linchon, où je componais des pillages. Mais avant tout, on va un chemin pas encore vers Clermont-Ferrand. Madame Christine Pires, bonne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Alors, je rappelle, vous êtes députée du Puy-de-Dôme, parenté socialiste et vice-présidente du groupe d'amitié France-Portugal. Alors, le 25 avril, bon, c'était avant-hier, quelque chose comme ça, 50 ans du 25 avril, quel souvenir vous avez? Parce qu'en 1974, vous aviez 10 ans, sauf erreur de ma part.
Ah oui, j'avais 10 ans et je n'ai pas de souvenir à 10 ans, en tout cas dans ma famille. Mes parents ne parlaient pas politique. Mes parents ne savaient à peine lire et surtout pas écrire. Et il n'y avait pas de journaux non plus à la maison. Donc je n'ai pas de souvenir à 10 ans de cette révolution. Par contre, je me suis forgée ensuite, des convictions et j'ai découvert cette révolution à l'âge adulte, en fait. Mmh. Et forcément, en tant que franco-portugaise, je me suis intéressée à l'histoire de mon pays. Donc voilà, c'est une découverte un peu plus tardive une découverte qui m'a donné envie, en tout cas, quelques années plus tard, de créer cette association qui, dans le Puy-de-Dôme, commémore cette révolution.
Oui, tout à fait, parce qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont en train d'être faits à Clermont-Ferrand. Donc demain, par exemple, il y a l'historien Victor Pereira qui va participer à un débat à Clermont-Ferrand. Même le mardi 30 avril, ce sera un autre historien, Sciences Po, etc., Yves Léonard, autour de ses ouvrages, C'est les œillets de la Révolution, et ce sera à Clermont également. Mais madame les députés, quand on parle du 25 avril, c'est la démocratie, votre papa et votre maman aussi sont venus en France à cause de la misère, parce qu'ils ont dû émigrer. Oui. Et donc ça nous oblige à réfléchir un peu, d'autant plus que Clermont-Ferrand, à un moment donné, grâce ou à cause de Michelin, ils sont allés chercher plein de travailleurs au Portugal.
Effectivement. Ouais, ils avaient, Michelin avait un monsieur dont j'ai oublié le nom, qui était chargé d'aller recruter au Portugal et d'organiser la venue de travailleurs portugais pour Michelin. Donc, mes parents, effectivement, font partie de cette émigration économique très, très importante, qui n'était pas la première émigration portugaise, d'ailleurs, les années 60. Les Portugais avaient émigré, on le sait un peu moins, mais avaient émigré bien plus tôt, et notamment certains avaient même participé à la Première Guerre mondiale. Ça, on le sait un petit peu moins. Mais c'est vrai que la grosse vague d'émigration des années 60, dont font partie mes parents, avait été aussi accompagnée de certains émigrés politiques, de certains jeunes qui fuyaient les guerres coloniales, de certains intellectuels, de certains politiques à l'image de Mario Suarez, enfin voilà.
Mais en même temps, c'est-à-dire, quand on voit avec du recul, aujourd'hui, bon, malheureusement, les bidonvilles sont à nouveau devant nous, dans les environs des grandes villes. Les Portugais sont passés par des bidonvilles, disons que 50 ans après, finalement, parce que les bidonvilles, surtout dans la région parisienne, ont été résorbés au début des années 70, 72, 73. Par là, c'était qu'est-ce qui se passait derrière l'immigration? C'est quelque chose qui, ça se renouvelle dans le mauvais sens du terme, non, madame la députée?
Oui, l'histoire bégaye, l'histoire se répète, vous avez totalement raison. Alors, avec d'autres peuples, mais c'est la même histoire de misère. Et j'ai coutume de dire, de toute façon, vous pouvez construire tous les murs que vous voulez. Quand une mère de famille, quand un père de famille n'a pas de quoi donner manger à ses enfants, eh ben, il émigre. Voilà. Et bien souvent, il émigre dans des pays voisins. L'émigration, elle se fait surtout l'émigration, la plus forte émigration africaine, elle est inter-africaine. Elle se fait de pays africains à pays africains. On l'oublie aussi, hein. C'est surtout des immigrations, encore une fois, vers des pays voisins. Bon, les Portugais ont émigré vers la France, vers la Suisse, vers l'Allemagne, vers le Brésil aussi, vers les anciennes colonies, évidemment. Et aujourd'hui, quand on voit les dernières élections, évidemment, législatives au Portugal, je ne peux pas ne pas en parler, et notamment deux députés des Portugais de l'étranger qui rejoignent le parti FEG, on se dit qu'on a pourtant une révolution récente, puisque 50 ans c'était hier, donc un passé récent, et on a l'impression qu'on ne tire pas les leçons du passé, malheureusement.
Alors justement, par rapport à l'extrême droite au Portugal, 2019, ils ont élu 2 députés. 2022, 12. 2024, donc le 10 mars dernier, 50 ouais. députés. Alors, ouais. si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté espagnol, avec Vox, si on regarde qu'est-ce qui se passe ici en France, qu'est-ce qui se passe en ouais. Allemagne et dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe, madame la députée? Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre dans, vers quoi on va. Est-ce qu'on dérive? Il y a une dérive, qu'est-ce qui se passe?
Il y a tout simplement une mondialisation heureuse pour certains et une mondialisation, en tout cas, qui laisse énormément de gens de côté. Et donc, on a, parce que c'est pas, moi, en tout cas, je n'explique pas ce phénomène de montée des extrêmes droites, et vous avez raison de le dire, partout en Europe, uniquement par la question du racisme. Je crois que beaucoup de gens votent extrême droite par désespoir, parce que les politiques jusqu'ici ont échoué à faire que la mondialisation elle soit heureuse pour tout le monde. Mais ce qui se passe chez nous, quand vous regardez, quand vous analysez le vote de l'extrême droite, vous voyez qu'il y a le vote des métropoles et puis il y a le reste. Il y a ce vote notamment rural, périurbain, qui fait que l'extrême droite y fait ses meilleurs scores. Parce que oui, on n'a pas que le sentiment. On a aujourd'hui un abandon de services publics, notamment dans certains territoires, ou un recul de services publics. Quand vous n'arrivez pas à vous soigner, que vous n'arrivez pas à trouver un médecin, quand vous êtes à une heure de l'hôpital, eh ben oui, vous angoissez. Quand vous n'arrivez pas à trouver un médecin à Clermont, c'est pas grave, vous avez le CHU à 5 minutes.
Ouais,
c'est un exemple parmi d'autres, mais et quand moi je vais au Portugal et que je regarde ce qui est devenu Cidade da Guarda aujourd'hui et ce qu'elle était il y a 30 ans quand j'y allais en vacances. Je me dis que oui, la métropolisation, la mondialisation, ne fait pas que des heureux.
Loin s'en faut. Alors justement, c'est qu'on assiste à l'augmentation des précarités. Et l'exclusion sociale, il suffit bon de voir, selon des chiffres des Enedis, il y a eu 1 million de factures impayées, etc. On coupe l'électricité, on coupe, etc. C'est ça, d'après vous, le terreau pour l'extrême droite? Parce que qu'est-ce qu'ils proposent exactement?
Alors, vous avez un changement dans le discours, je dis bien dans le discours, effectivement, de l'extrême droite, qui semble devenir un discours social. Enfin, moi, je les pratique aussi à l'Assemblée nationale, et certaines de leurs mesures vont exactement dans le même sens. Je dis bien certaines, mais quand ils refusent, par exemple, d'augmenter le SMIC, je dis ça reste du discours racoleur pour effectivement attirer cet électorat-là qui soit ne vote plus, soit voter à gauche ou à droite. Il y a encore quelques années.
Bon, ça veut dire qu'on a une tâche importante devant nous pour défendre la démocratie.
Oui. Ben, pour tous les démocrates, pour tous les amoureux de la démocratie, il y a une évidence, et dès le 9 juin, dès les élections prochaines, mais encore faut-il que l'Europe change. Moi, je ne suis pas une admirative béate de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, et je suis une Européenne. Profondément européenne. Mais je reconnais que les échecs de l'Europe conduisent aussi à la situation qui fait que toutes les extrêmes droites, y compris en Allemagne, ce qui est là aussi terrible, grimpent à vive allure.
Enfin, bon, je veux dire par là que bon, c'est à suivre de quelle façon, mais là, il faut que chaque citoyen s'assume aussi. Madame Christine Pirschbone, merci et bonne route. Je sais que vous allez prendre la route. Merci.
Oui,
bien.
Alors là, je vais à une autre commémoration dans le Puy-de-Dôme. Il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de manifestations. Hier, à Ménétrol, on avait 270 personnes et c'est sûrement la plus belle fête de on l'a fait tous les ans. Ces 20 dernières années, c'était vraiment l'édition là, peut-être la plus belle avec vraiment une ambiance magnifique.
Merci Madame le député, à très bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Alors, on vient ici au studio, Madame Fatia Aghoun, bonjour, et merci d'être venue jusqu'au studio. Le lac de Créteil, c'est ça qui nous sépare, non?
Bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis dans un département, le département du Val-de-Marne, qui est un département dense, mais qui est un département où on peut circuler aussi. Donc, effectivement, je ne suis pas loin de votre radio.
Voilà. Alors, il faut dire aussi que vous avez été élu dans le canton de Kremlin-Bicêtre. Alors, Gentilly, le Kremlin-Bicêtre, etc. Vous êtes présidente du groupe Val-de-Marne en commun. Avec Madame la députée Christine Pirjbon, on a parlé de démocratie, on a parlé d'élection de 50 députés d'extrême droite au Portugal. On connaît ici la situation. Justement, la démocratie aujourd'hui, vous croyez qu'elle peut être en danger?
Effectivement, la démocratie aujourd'hui peut être en danger par ses choix aussi libérales, parce que la démocratie, c'est aussi, pour, à mon sens, une question à la fois de progrès social. Et aujourd'hui, le progrès social est en panne à la fois ici en France, mais aussi dans les pays européens. On ne peut que s'alarmer, comme vous l'aviez évoqué, effectivement aujourd'hui, en 2024, 50 députés du parti de la Chega qui sont arrivés au Portugal, c'est assez inquiet.
19%, environ 19% des voix.
Donc, on ne peut que s'inquiéter pour un pays qui, jusqu'alors, était aussi, on va dire, épargné par cette poussée de l'extrême droite qui, effectivement, ne peut que nous inquiéter et qui doit aussi, pour les forces progressistes, nous amener à être à la fois fort mobilisés face à cette poussée de l'extrême droite.
Alors, dans le 94, je pense que ce n'est pas encore la situation, c'est quand même l'extrême droite. Mais parlons justement, vous êtes présidente du groupe Val-de-Marne en commun, donc on parle là du conseil départemental du Val-de-Marne. En juin 2021, bon, aujourd'hui on est déjà le 28 avril 2024, et vous êtes votre groupe d'opposition, vous êtes assez critique avec la gestion de la majorité de droite, notamment de M. Olivier Capitanio, qui est le président.
Effectivement.
Mais vous êtes vraiment vous le critiquez sévèrement.
Sévèrement, mais justement et fermement. Parce qu'effectivement, depuis le 1er juillet 2021, ce département est dirigé par la droite. Une gestion qui, pour nous, est assez contesté et effectivement avec des politiques qui sont mises en place depuis maintenant presque 3 ans, des politiques que je qualifie effectivement d'austérité, des politiques qui amènent aussi à exclure une partie, pas les moindres, de la population val-de-marnaise. L'une des premières décisions, rappelons quand même, c'est la suppression des chèques solidarité pour lequel près de plus de 70 000 Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises bénéficient en fin d'année, avec aussi la suppression des fêtes des solidarités qui, rappelons-le, était un moment à la fois de convivialité, mais aussi de partage. Mais c'était aussi le moment où les personnes pouvaient aussi avoir des éléments, des informations concernant leurs droits. C'était aussi le soutien indirect à la vie associative, puisque nous avions des associations qui étaient présentes, qui participaient à cette solidarité, parce que pour nous, en Val-de-Marne, le bouclier social est un élément important dans nos politiques publiques.
Mais Madame Aghoun, justement, alors, plus subvention pour la Ligue des droits d'homme, plus subvention pour la CNL, pour les comptes comme ça, la maison des syndicats. Donc,
c'est des choix politiques assumés par la droite, mais des décisions, effectivement, d'exclure, de punir des associations qui ont, effectivement, la liberté associative est un droit en France. Donc, chaque association a le droit d'avoir une expression. Effectivement, le président du département a supprimé la subvention à la Ligue des droits de l'homme du Val-de-Marne. Il a d'ailleurs, pour rappel, anticipé les propos de Monsieur Darmanin, souvenez-vous à l'époque, qui invitait les collectivités à revoir les subventions à la Ligue des droits de l'homme. Et puis, concernant la CNL, qui est quand même la première association...
La Confédération nationale du logement,
qui est une des premières associations départementales en matière de défense des locataires dans ce département, qui a fait effectivement une campagne pour dénoncer certains maires et certains choix politiques de ne pas construire de logements sociaux dans leur ville. Donc, ils ont dénoncé. Et M. Capitano a décidé de supprimer simplement leur subvention de fonctionnement.
Alors justement, parlons de... Le gouvernement a annoncé la modification de la loi SRU. Si on reporte au département 94, il y a 100 000 familles qui attendent un logement. Alors, attention, qu'est-ce qui se passe? Parce que, bon, déjà, au début, ça faisait partie de la campagne, hein, de la droite. Ça concernait toutes les villes qui avaient plus de 25% de logements sociaux. On a d'autres, sans mordre et fossé, pour ne pas le nommer, qui est à peine 2%. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du gouvernement de modifier la loi SRU? Et tout ce qui se passe depuis 2021 au niveau des logements dans 94.
Alors moi, je la qualifierais de cette décision de scandaleuse. Scandaleuse parce que, comme vous l'avez rappelé, plus de 100 000 demandeurs de logements en Val-de-Marne. Mmh. Moi, je rencontre des personnes dans le cadre de mes permanences qui sont en attente d'un logement. Des familles avec des enfants notamment qui se retrouvent dans des hôtels. Alors qu'aujourd'hui, s'il y avait une volonté politique de construire du logement social dans des villes qui ne respectent pas la loi SRU. Et effectivement, la décision, en tout cas de Gabriel Attal, d'intégrer des logements locatifs intermédiaires dans le cadre du calcul de la loi SRU, c'est une réponse claire et nette aux maires qui ne respectent pas la loi SRU dans notre département. C'est clairement... D'ailleurs, quand Saint-Maur, qui a à peine effectivement 10% de logements sociaux, a d'ailleurs même déposé un vœu pour appuyer les annonces de Gabriel Attal sur pour moi, je qualifie de destruction de la loi SRU.
Mais madame, on vous dit qu'il y a un problème avec le foncier. On ne peut pas dire le contraire. C'est un certain nombre de villes qui ont un problème de foncier.
Alors oui, le foncier est un problème. Est une vraie question. Mais je crois bien qu'il y a des villes, et notamment en proximité de Paris, qui ont fait le choix de construire du logement social, où d'ailleurs le foncier est extrêmement cher. Donc des villes comme Saint-Maur, je veux bien qu'on me dise que le foncier est cher, mais ça dépend pour quel type de logement. Donc il y a des... effectivement... Il y a une volonté de la part de ces villes de trouver tous les subterfuges pour ne pas répondre aux besoins des populations en Val-de-Marne.
Donc ça veut dire que les pauvres, on les envoie où? Quand on critique, un exemple même, Créteil, Champigny, je pourrais compter dans le Val-de-Marne, ça ne manque pas. Hein, des villes qui dépassent largement les 25%, il y a même certains endroits, c'est 40% logements sociaux. Ben, qu'est-ce qu'on va faire des pauvres, où ils vont-ils loger? Quand on sait également que on travaille dans l'endroit et on vise dans l'endroit assez lointain, le problème des transports, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait des pauvres, là?
Eh bien, les pauvres, pour certains qui en ont une vision justement du logement social, où on ne parle que des pauvres, mais le logement social, c'est pour tous et toutes.
Les classes moyennes.
Voilà, les classes moyennes aussi. Ce sont aussi des enseignants, des travailleurs et travailleuses hein, qui se lèvent pour certains très très tôt. Donc la question c'est comment aujourd'hui on répond à cette demande et non en stigmatisant le logement social, parce que quand on nous reproche à nous, quand notre groupe interpelle en séance la majorité, et qu'on nous reproche de faire du logement notre fonds de commerce et qu'on qualifie de ghetto le logement social, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que c'est un mépris vis-à-vis des populations qui vivent dans du logement social. Donc ça, nous ne pouvons pas l'admettre et c'est vraiment un mépris. tout simplement.
Mais en même temps, on ne peut pas dire que ce n'est pas des ghettos. Ce sont des ghettos. Les services publics, ils ont, sont disparus complètement. Les permanences de la CAF, les permanences de la Sécurité sociale, même les PMI, etc. Tout un tas de trucs sont disparus. Les commerces, avec les grands centres commerciaux, ça tout autour. C'est qu'on veuille ou pas, c'est complet. C'est, les habitants de certains nombre de quartiers sont isolés de la vie, David, la vie entre guillemets de la société, parce que ça n'empêche que dans un nombre de quartiers, il y a plein de choses positives qui se passent, il y a une vie sociale, mais ça n'empêche que de fait, qui c'est qui a démissionné? C'est le pouvoir local, c'est l'État, que c'est qui?
Bah, je dirais avant tout, c'est l'État. C'est l'État par son désengagement envers les collectivités territoriales. Déjà de réduire à la fois les moyens aux collectivités territoriales, c'est aussi aujourd'hui un manque de vision pour ces quartiers populaires, mais pour l'ensemble aussi de notre tissu urbain, où aujourd'hui effectivement les services publics que vous évoquez ne sont plus présents, et il y a une vraie problématique sur le service public. Et aujourd'hui, quel service public nous voulons pour les populations, notamment en Val-de-Marne?
J'ai pas nommé les bureaux de poste qui sont fermés dans le 94. Il y a une bonne dizaine minimum, non?
Effectivement, il y a eu des bureaux de poste fermés dans ce département.
Les uns après les autres,
malgré les batailles que nous avons menées avec les populations pour un maintien de ce service public postal, en tout cas tel que nous le concevons en Val-de-Marne.
Alors, Monsieur le Président, demandez, faites des enfants. Bon, c'est très bien, faire des enfants. Sous-entendu, peut-être pour faire la guerre un peu plus tard. Je suis mauvaise langue, là, je m'excuse. Mais enfin, bon, ça n'empêche que c'est de faire des enfants, ça suppose un certain nombre de structures. À commencer par les crèches. Le département dit, bon, ils ont d'ailleurs, le dernier communiqué de la commission permanente parle exactement c'est un nombre de financements, nouvelles crèches qui sont ouvertes. Et mais vous, dans un communiqué, vous dites les crèches en Val-de-Marne, un bien commun à préserver. Il est menacé?
Pour nous, oui, elles sont menacées. En tout cas, il y a des vraies problématiques d'accueil et d'enfants dans les crèches départementales. Aujourd'hui, nous avons presque 900 berceaux fermés en Val-de-Marne.
Par manque de personnel?
Par manque de personnel. Par manque, effectivement, aussi de volonté. Pour nous, nous avons demandé une mission d'information et d'évaluation.
Le 11 décembre.
Voilà, le 11 décembre, qui a été examiné lors de la séance du 11 mars dernier, pour lequel c'est une mission qui est dans le cadre du règlement intérieur du fonctionnement du conseil départemental. Il y a eu un vote contre, ça a été refusé par la majorité départementale. Nous avons souhaité cette mission d'information et d'évaluation pour un travail collectif, pour se poser, pour avoir une réflexion commune, pour apporter des solutions face à cette situation qui nous inquiète fortement en Val-de-Marne, en tout cas nous, l'opposition, puisque rappelons quand même qu'aujourd'hui nous avons eu 81 crèches départementales, donc la moitié des crèches départementales de France. Rappelons que c'est une politique volontariste. D'ailleurs, nous avions lancé à la dernière mandature la création de plus de 590 places en crèche départementale.
Et à la présidence, il y avait M. Christian Fabius. Hein?
Voilà. Donc, il y a toujours eu cette volonté politique d'accueillir les jeunes enfants en Val-de-Marne, mais aussi avec un projet éducatif, parce que ce n'est pas que de la garderie. Il y a vraiment un travail et un projet éducatif derrière. Mais c'est surtout, effectivement, des postes en moins. C'est aussi de l'investissement en moins dans les crèches. Je veux juste rappeler qu'aujourd'hui, les crèches qui sont inaugurées par la majorité départementale de droite, ce sont des crèches que nous avons initiées. Voilà.
Donc c'était déjà programmé.
C'était déjà programmé. Vous savez, hein, aujourd'hui, tous les rubans que coupe M. Capitanio, ce sont des projets qui ont été initiés par la majorité conduite par Christian Favier. Mmh. C'est important de le rappeler parce que ce sont des projets, vous savez, quand on parle de projets, de politique publique, c'est des projets qui sont réfléchis, travaillés bien en amont et que c'est dans le temps qu'ils se réalisent.
Et d'ailleurs, vous m'aviez dit, bon, on était hors antenne, justement, c'était des investissements, donc c'était pas une dette. Mais enfin, alors, bon, sans oublier cette histoire de crèche, parce qu'en sachant le nombre de femmes qui vivent toutes seules avec des enfants, surtout c'est les femmes qui vivent, au point de vue emploi, davantage en précarité, des horaires à rallonge, commencer très tôt, etc., finir tard, sans oublier les transports, mais enfin, sans crèche, pour les enfants, galère. Alors, si on parle des enfants, bon, on laisse un petit peu les crèches, allons au primaire. Au primaire, c'est de la responsabilité. Le primaire, c'est de la responsabilité des municipalités. Mais enfin, ça n'empêche que c'est entre les crèches et les collèges. Enfin, bon, là, c'est des municipalités qui disent, oh, je sais pas quoi, c'est l'État qui m'aide pas, c'est le département. Mais par rapport au collège, on sait très bien qu'il manque des professeurs. Il y a des conditions de travail des élèves, sans oublier bon le problème d'isolation, j'en passais les meilleurs. Monsieur Gabriel Attal est venu à Viry-Châtillon, justement. Alors tout ce qui est parlé, c'était de la violence au sein des établissements scolaires. Bon, en réalité, ça se passe devant un truc comme ça, mais enfin, ça n'empêche que pour vous, bon, la violence est une réalité, mais il y a d'autres choses plus importantes à résoudre avant.
La violence est malheureusement une réalité, mais ce qui nous préoccupe et sur lequel il faut aussi agir, c'est sur les moyens à l'éducation, pour l'éducation nationale. Nous, depuis des années, notre groupe portons un vœu, sommes aux côtés des parents d'élèves, des équipes éducatives, pour un plan d'urgence en Val-de-Marne. Ça passe par des moyens humains, c'est-à-dire qu'il faut aussi des adultes dans les collèges. Il faut permettre aux élèves d'avoir des conditions d'apprentissage les plus optimums. Les élèves ont besoin d'avoir effectivement à la fois des enseignants, des équipes éducatives qui soient aussi à leur côté. Et quand on parle d'une équipe éducative, c'est un collectif. Donc on a besoin de plus d'adultes dans les collèges. Et c'est-à-dire, quand on voit, je vais vous prendre un exemple concret. Moi, je suis conseillère départementale sur le canton du Kremlin-Bicêtre-Gentilly. Le collège Albert Cron, pendant des mois, des élèves n'ont pas eu de prof de français. Pendant des mois. Est-ce que c'est acceptable aujourd'hui que des élèves ne puissent pas apprendre, ne puissent pas avoir un enseignant? C'est un droit. Le droit d'étudier en France est un droit sacré.
Le droit à l'éducation.
Voilà. Donc, il faut que, au lieu de nous, tous les jours, de nous faire des coups de communication, M. Attal devrait prendre à bras-le-corps la question des moyens et d'une école républicaine avec un accès au droit égal pour l'ensemble des élèves.
Mais déjà, bon, il faudrait peut-être commencer par payer les profs convenablement. La France, si on regarde les pays de l'OCDE, les profs, vraiment, ils ont des salaires nettement plus bas. Ils sont en dessous de la moyenne. Ça, d'une part, comment recruter des profs? Comment faire?
Eh bien, effectivement, il y a la question de la revalorisation, mais aussi donner du sens au travail et arrêter du bashing des profs. Parce que il y a quand même aussi une crise de vocation des professeurs aujourd'hui.
Mais Madame Agouni, il y a aussi des profs qui sont agressés verbalement. Et quand on voit un certain nombre, il y a des programmes, ça pose des questions à des élèves, entre guillemets. Je ne sais pas si les élèves, c'est aux parents d'élèves. Ça pose un problème, des discussions, et on peut dire que les profs aujourd'hui sont un petit peu perdus, et la hiérarchie, ça ne les soutient pas. Donc il y a un problème global qui concerne toute la société. Il n'y a pas que les profs qui doivent régler des problèmes, c'est pas à eux de le faire.
Alors effectivement, les mots MAUX de la société ne doivent pas être uniquement... c'est pas l'école qui va les régler à elle toute seule. Pour moi, l'école, l'éducation est aussi le lieu d'émancipation. C'est aussi le lieu où les enfants, les élèves, apprennent des savoirs, on transmet... des savoirs, mais c'est aussi le lieu où on s'éclaire, où on apprend à être des citoyens en devenir. Donc c'est aussi travailler, réfléchir à ce que l'école aujourd'hui elle est. Et mais je suis aussi convaincue que les moyens alloués à l'éducation nationale ne sont pas à la hauteur des besoins. Et quand on voit que dernièrement on réduit de près de 700 millions d'euros le budget qui était alloué à l'éducation nationale, ce sont bien des choix et une vision aujourd'hui de ce gouvernement sur les questions d'éducation.
Mais enfin, l'école n'est pas isolée du reste. Quand on voit cette situation de précarité, etc., pour les jeunes, quel avenir pour les jeunes? Mais enfin, avant, on avait des utopies, on avait des rêves. Aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'on leur propose? Pour passer à autre chose, le RSA, c'est très important, parce que ça faisait déjà partie du programme de M. Capitanio, donc en 2021. Vous avez des numéros par rapport aux fermetures de classes dans le département pour la prochaine année scolaire ou pas?
Alors, les derniers chiffres que j'avais étaient autour de 37 fermetures de classes. Mais à vérifier, je n'ai pas les derniers chiffres, donc je ne vais pas induire les auditeurs.
Alors, parlons de fameux RSA. Sous condition appliquée dès 2024 en Val-de-Marne. Bon, ça faisait partie des propositions de la majorité de droite quand elle est devenue de majorité en 2021.
Ah oui, ça a été même leur obsession. Ça, effectivement.
Donc il n'y a rien de nouveau, mais quand on lit votre communiqué, on dirait que bon.
Ah non, il y a effectivement, il n'y a rien de nouveau sur la vision de la droite départementale sur les allocataires du RSA, parce que effectivement, comme si les allocataires du RSA vivaient le RSA comme une fin en soi.
Il faudra peut-être rappeler les chiffres.
Alors aujourd'hui,
ça dépasse un petit peu. Bon, ça dépasse les 500 euros par mois.
On est l'allocation RSA pour une personne seule. Alors je vais pas vous dire un chiffre. On est autour de 500, un peu plus de 560 euros.
Mais avec ça, on vit bien. On peut partir en vacances, on va sur la Côte d'Azur, non? C'est ça qu'on dit un petit peu. On a le RSA, on ne veut pas travailler.
Bien. Ça, c'est effectivement les stéréotypes et les clichés. Effectivement l'imaginaire collectif porte, mais c'est aussi porté par la classe dominante qui ne vise qu'à diviser effectivement ceux qui ont le moins entre eux. Donc pour revenir à la politique de l'allocation RSA par la majorité de droite, effectivement aujourd'hui nous sommes sur une politique qui est excluante, qui ne prend pas en compte les problématiques sociales des allocataires du RSA. Pour rappel, aujourd'hui, le nombre d'allocataires du RSA en Val-de-Marne, c'est 43 241.
Et on pourrait peut-être le multiplier par deux ou par trois, les gens qui ont le droit.
Et leur ayant droit.
Et qui ont pas fait la demande.
Voilà, exactement. Le non-recours, c'est presque 30% de personnes qui sollicitent pas le RSA alors qu'ils pourraient y prétendre. Donc effectivement c'est une politique qui ne met pas qui ne prend pas en compte les freins pour lesquels les allocataires du RSA subissent aujourd'hui, notamment sur la question, tout à l'heure on parlait des modes d'accueil qui est aussi un frein, notamment pour les personnes allocataires du RSA dans leur recherche d'emploi. Et puis la question près de c'est aussi la question des problèmes de santé qui sont effectivement un frein pour les personnes. Moi vous savez je rencontre des personnes en tant qu'élue quand je marche dans ma ville ou ailleurs. Quand vous avez des allocataires du RSA qui ont plus de 60 ans, qui veulent travailler, mais qui ont des problématiques de santé plus et qui ne aujourd'hui sont malheureusement en attente d'une retraite, mais bon, compte tenu de la dernière. Voilà, exactement. Et puis la réforme des retraites n'accélère qu'un processus de précarisation, notamment des allocataires du RSA en particulier. Donc une politique de droite hein, qui assume clairement une orientation stigmatisante et punitive hein, de la part de cette droite qui d'ailleurs, pour rappel, dans la presse, souvenez-vous, en tout cas Monsieur Capitano qui qui disait clairement que le but de la diminution de l'allocation, c'est de provoquer un électrochoc que pour que la personne revienne nous voir. Donc, si c'est cette façon d'accompagner les allocataires du RSA, elle nous semble inadmissible et surtout intolérable pour des gens qui vivent avec très peu.
Madame Agoun, revenons un petit peu au 1er mars. Hein. C'est dans un déplacement dans les Vosges qu'au Premier ministre annonçait l'ex-orientation du RSA sous conditions qui serait étendue cette année à 47 départements. Donc le Val-de-Marne fait partie de ces départements. Concrètement, qu'est-ce que vous critiquez dans la mesure qui va être appliquée dans le Val-de-Marne? Parce que bon, on a parlé contre le principe, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans le Val-de-Marne? Quelle décision a été prise?
Ben justement, le département du Val-de-Marne a décidé d'expérimenter ces 15 heures de travail, hein, puisque c'est comme ça que nous, on le qualifie. Pour l'instant, nous avons très peu d'éléments, puisque cette décision, en tout cas, va être soumise à l'Assemblée départementale, puisqu'il y a l'obligation d'avoir un vote. Donc aujourd'hui, les éléments qui nous ont été fourni oralement par le président nous semble encore pas clair.
Apparemment, ce serait de réaliser 15 heures d'activité hebdomadaire.
Voilà, c'est les 15 heures réalisées.
Quelle activité, dans quelles conditions, etc., etc.
Ben, pour l'instant, nous avons très peu d'éléments. Ça nous a été dit à l'oral. D'ailleurs, nous l'avons appris par la presse. Nous l'avons appris comme ça, par la presse. L'exécutif, Monsieur Capitano, nous a informé par la suite, mais nous aurions préféré quand même avoir le débat en amont au lieu de l'avoir, en tout cas, de voir dans la presse les décisions prises par cet exécutif.
Et une petite question subsidiaire. Très bien, 15 heures de travail, bon, d'activité en plus. Bon, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. L'hebdomadaire, s'il faut se déplacer. La carte Nivigo est remboursée, n'est pas remboursée, je ne sais pas, je pose une question toute bête, hein, madame Agoun.
Non, elle n'est pas bête, elle est très importante, hein, puisqu'on sait que, effectivement, les transports, et en tout cas les moyens, sont un frein aussi pour les allocataires du RSA. Donc, cet élément, je ne pourrais pas vous donner une réponse, je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc, mais c'est un vrai sujet. C'est parce que ces 15 heures d'activité, aujourd'hui, nous n'avons aucun élément et on sait que c'est aujourd'hui les éléments qu'on a, en tout cas au niveau national, ne sont pas concluants, en tout cas positifs pour les allocataires du RSA. Ces 15 heures, ce que veulent les allocataires du RSA, c'est avoir un travail digne, rémunéré.
Ça passe déjà par une formation, alors, la plupart du temps.
Bien sûr, pour une partie des allocataires du RSA, ça passe bien évidemment par une formation, une remise à niveau, des actions qui concourent à remobiliser les personnes qui sont parfois très isolées, très éloignées de l'emploi. Et donc, c'est un réel accompagnement, ce qui d'ailleurs, aujourd'hui, manque dans les politiques du départemental en matière d'insertion sur lequel nous avons eu beaucoup de communication, mais aujourd'hui nous attendons des éléments probants sur cette politique d'insertion.
Mais madame, c'est pas spécifique en 94, ça. Donc, c'est pas spécifique la façon comme la droite gère le département du Val-de-Marne. Parce que si on élargit un petit peu cet nombre de mesures, cette histoire d'élargir justement cette période d'expérience, ça vient du gouvernement. Donc, il y a cet nombre de choses parce que d'autant plus que les départements.
Si je peux me permettre.
Je vous en prie.
Effectivement, c'est une décision gouvernementale, c'était dans le programme de Monsieur Macron. Mais je rappelle aussi que c'était dans le programme de Madame Pécresse. Donc c'est bien les droites qui se rencontrent.
Bon, donc c'est une constatation, hein, comme une autre. Mais enfin, justement, alors, en bref, bien que c'est très important, histoire de finances. À l'époque de Monsieur Favier, il se plaignait déjà que l'État devait au département demi-milliard d'euros. Bon, 105 millions d'euros. C'était les dotations qui suivaient, ça augmentait d'année en année. La situation aujourd'hui, c'est toujours pareil. Ça concerne les départements, c'est même pire. Donc, comment on peut exiger à M. Capetino un certain nombre de choses quand les dotations du gouvernement baissent et quand les charges financières du département augmentent? Comment faire?
Bah nous, sur quoi on est vraiment attaché, c'est effectivement à la mobilisation. Porter des exigences, se mobiliser, mais se mobiliser avec la population pour exiger des moyens aux collectivités territoriales. Bien évidemment, on est bien conscient que la situation des collectivités territoriales aujourd'hui est, en termes de finances publiques, est catastrophique, et d'autant plus qu'on a supprimé un levier fiscal, notamment pour les départements, aujourd'hui, où il n'a plus la possibilité de lever la fiscalité. Nous avons des recettes, il y a des recettes qui sont en baisse, qui est aussi une situation catastrophique, on peut le dire comme ça, mais on a aussi un gouvernement qui aujourd'hui met encore plus à mal les collectivités et qui, nous demandons, nous sommes prêts à porter une mobilisation pour aller chercher les recettes et les moyens qui sont dus, qui doivent être donnés au département, puisque vraiment il assume aussi une compétence qui est l'action sociale quand aujourd'hui la situation se dégrade, notamment pour un nombre important de Val-de-Marne et Val-de-Marnaise qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois.
Même pas arrivé parfois au milieu du mois. Madame Agoun, il paraît qu'on va avoir des Jeux Olympiques et Paralympiques. On voit déjà les conséquences, je passe l'expression, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pendant environ un mois et demi, notamment au niveau des transports. On sait déjà galère parce qu'on travaille et on habite la distance, des fois c'est 50-60 kilomètres, le transport en commun, c'est difficile. Et entre-temps, au niveau de la région, vous avez co-signé un communiqué avec Madame Céline Malaisé, entre autres, au sujet de la ligne C. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe avec cette fameuse ligne C?
Alors, la ligne C, le RER C, qui traverse notre département. Donc, en 10 ans, la ponctualité de la ligne a baissé de 5 points.
Pardon, Madame Magoun, il n'y a plus de retard. Tout simplement, les trains sont supprimés.
Voilà, mais
il n'y a plus de retard.
Oui, donc aujourd'hui, il n'y a plus de retard parce que c'est la suppression de trains qui aussi diminue, soi-disant,
le nombre de retards.
C'est l'arithmétique, mais bon, la vie des gens, ce n'est pas de l'arithmétique. Donc, effectivement, aujourd'hui, les projets autour du RERC, c'est des trains, et je pense notamment à la gare de Choisy-le-Roi, qui est quand même la troisième gare du département, où on a des retards constants, des trains qui sont bondés.
Le matin et le soir, bondés. Ouais.
Voilà, et donc la situation des Val-de-Marnais qui empruntent cette ligne, aujourd'hui, n'en peuvent plus. Ils sont fatigués de cette détérioration des transports, et notamment sur la ligne C du RER, qui est aujourd'hui la rénovation des gares. Nous militons pour qu'il y ait une rénovation des gares telles que la gare de Choisy et avant 2035.
Madame Agoun, on est pratiquement à la fin. Alors, à ce propos, vous allez inviter Madame Valérie Pécresse de prendre la ligne C de RER le matin très tôt?
Alors moi, je l'invite, je ne vais pas l'inviter, mais Madame Pécresse devrait prendre effectivement La ligne C, mais beaucoup de transports.
La ligne B,
on peut lui faire un parcours si elle ne sait pas où aller, mais en tout cas qu'elle soit bien consciente qu'aujourd'hui les transports. Et j'invite les auditeurs et les auditrices à signer la pétition Stop Galère. Merci.
Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de réunions publiques et on essaie de les annoncer au fur et à mesure. Madame Fatia Aghoun, merci. Je rappelle que vous êtes la présidente du groupe Val-de-Marne en commun. On a balayé un petit peu certain nombre de problèmes concrets de la population val-de-marnaise. Et le mois prochain, au mois de mai, on va avoir ici, à votre place, Monsieur Capitanio. Voilà. Merci. Merci d'être venu chez nous.
Merci à vous. Obrigado. Et bonne journée aux auditeurs et aux auditrices de Radio Alpha. Merci.
Muito obrigado. Nós voltaremos depois das 13.
À tous. La mobilisation pro-palestinienne dans les universités françaises s'est amplifiée ce mardi. Toutefois, la plupart des établissements concernés par ce mouvement ont été évacués. C'est le cas notamment de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. La police a également délogé des militants qui occupaient le département des études politiques de l'Université de Saint-Étienne. Évacuation également de Sciences Po Rennes ou de Sciences Po Menton. Une marche blanche en hommage au jeune Mathis tué de plusieurs coups de couteau sera organisée ce samedi après-midi dans le centre-ville de Châteauroux. L'horaire exact doit encore être arrêté, mais la manifestation devrait passer devant l'école de la victime, sa maison, ainsi que le restaurant de ses parents. Un adolescent de 15 ans, déjà connu des services de police, a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Sa mère a été mise en examen pour violence volontaire. Après les inondations, l'heure est à la démolition. L'État va racheter une dizaine de maisons dans une rue sinistrée de la commune de Blendegg, dans le Pas-de-Calais, pour ensuite les raser. Ce quartier a subi de très gros dégâts entre les mois de novembre et janvier dernier. Pour l'instant, la date des travaux de démolition n'est pas encore connue. Cette zone pourrait se transformer en expansion de crue, c'est-à-dire une zone naturelle, afin de retenir l'eau et pour protéger des inondations les autres quartiers de la ville. L'État va prendre en charge 50% du prix du péage de l'autoroute A14 pour les covoitureurs. Une annonce du ministère des Transports. La mesure s'appliquera jusqu'à la date de remise en service de l'A13. Une portion gratuite de l'A13 située entre le boulevard périphérique parisien et l'A86 est fermée depuis le 18 avril dernier pour des raisons de sécurité. Elle doit rouvrir progressivement à partir du samedi 11 mai prochain, mais seulement dans le sens Provence-Paris. Et puis le jackpot pour un joueur français, il a remporté ce mardi soir plus de 166 millions d'euros lors du tirage de l'Euromillion. 8 joueurs européens, dont un en France, avaient aussi les 5 bons numéros, mais seulement une étoile. Ils repartiront quand même avec un peu plus de 114 000 euros. Excellente soirée à tous, à notre écoute.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Entramos na segunda hora da Passagem de Nível neste domingo, dia 28 de abril, emissão Relembro, com redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas. Sem esquecer o podcast, sem esquecer igualmente que hoje é dia 28 de abril. Pois bem, em Ormesson-sur-Marne, no Centro Cultural Vladimir Ormesson, a partir das 17 horas, a peça teatral Soldado Ici et Là-bas, que vai ser representado isto antes precisamente da companhia ir representar esta peça a partir já de amanhã no estúdio Héberto em Paris 17, mas para já o encontro, quanto mais ou seja para aqueles que vivem no Val-de-Marne, Centro Cultural Vladimir Ormesson, às 17 horas, Soldado Ici et Là. Um texto de Isabel Ribeiro, mise en scène d'Alexis Dessau, com Isabel Ribeiro, Daninger dos Santos e Simon Cantana. E começamos esta segunda hora com um livro, La Révolution des œillets, du pouvoir populaire au pouvoir parlementaire, é o olhar precisamente de um correspondente do jornal Le Monde em Lisboa, um livro nas edições Atelier. José Rebelo esteve hoje de manhã aqui nos estúdios, não podia estar esperar até esta hora, gravámos a entrevista, tanto mais que ele neste precisamente está num jornal, num almoço, assim é que é. Eu estou passando o jantar. Está no almoço, precisamente, à volta do 25 de Abril e depois será seguido por uma reunião. Mas aqui fica José Rebelo, antigo jornalista. Falamos do livro La Révolution des Ayés, du pouvoir populaire au pouvoir parlementaire, José Rebelo e Maria Inácia Rezola. Maria Inácia Rezola, uma historiadora, e que ela também que é comissária das comemorações do 25 de Abril 74. De maneira que há 50 artigos seus, que vão até à eleição presidencial de 1976, e isto, tudo isto é contextualizado a nível historiográfico, precisamente por Maria Inácia Rezola. Mas no seu livro, um historial, é bastante importante porque foca aquilo que se passava quase diariamente. Ora, a pergunta que eu faço é que fazer jornalismo ao quente, como se costuma dizer, não é nada evidente, de maneira que a informação, antes de ser lida, tem que ser construída. Ponho construída entre aspas, não é? E isto, partimos de fragmentos. Na urgência, temos que cruzar as fontes e depois temos que contextualizar os acontecimentos. É um quebra-cabeças, não?
É, e há sempre um risco nestas ocasiões, sobretudo quando há acontecimentos que mobilizam muito a opinião pública e mobilizam muito o jornal, e há um risco de seguir de demasiado perto os acontecimentos. E nessas ocasiões não ter condições para fazer o tal cruzamento que teoricamente deve ser feito, não fazer a tal contextualização que um bom trabalho de jornalismo exige, e de escrevermos um pouco à medida que as ideias nos vão ocorrendo, ou as interpretações dos acontecimentos nos vão ocorrendo. E portanto, quando se lê isto, quando se lê este escrito jornalístico, que é uma escrita fragmentada e muitas vezes uma escrita sem denouement, como diriam os franceses. Acontece com muita frequência, por exemplo, nós interessamos enquanto leitores por uma crise, sei lá, num país qualquer africano. Então lemos aquelas notícias diariamente sobre aquele país africano e de repente deixa de haver notícias, como se o acontecimento em questão tivesse desaparecido. Ele é, de alguma forma, empurrado para fora da atualidade por um outro acontecimento que vem. Portanto, há este risco sempre da pessoa seguir de muito perto um acontecimento, de não ter capacidade de o contextualizar, não ter capacidade suficiente para refletir sobre ele e para o relacionar com aquilo que poderá vir a seguir, e depois, de um momento para o outro, a história acaba abruptamente e o ouvinte, ou o telespectador, ou o leitor, fica desprovido do fim da história.
Mas, José Rebelo, o que é interessante também é que Portugal era raro. Bom, o jornal Le Monde era um pouco diferente, sobretudo a nível da luta dos povos das colónias. Estou a lembrar os artigos de Marcel de Mitterrand, etc. De maneira que, quando cheguei à França, era um leitor assíduo, porque é aí que eu encontrava muitas informações sobre isso. Mas o que é certo é que o 25 de Abril vem na sequência, alguns meses antes, em setembro de 73, do golpe de Estado de Pinochet, etc, etc, etc. Portugal e Espanha, ainda a Grécia, eram ditaduras, de maneira que aquilo parecia um ovni. Haveria qualquer coisa que aparece, o que é que se passa em Portugal, deixa de passar em Portugal. José Rebelo tinha já a vantagem que conhecia o país, mas mesmo para si, quer dizer, não sabíamos onde é que o país ia. Absolutamente nada.
Não, aliás, antes do 25 de Abril, houve o 16 de Março.
Exato.
Eu em Paris, que eu era exilado político em Paris, já estava no Monde, que eu entrei no Monde em 1972. Mas quando recebi as primeiras notícias dos acontecimentos das Caldas da Rainha, para ser franco, eu não atribuí grande importância àqueles acontecimentos. Pensei que era mais uma movimentação de generais e de coronéis, mas que não conduziriam necessariamente, não conduziria a uma libertação, à implantação e consolidação da democracia. Por isso, o 25 de Abril, visto daqui, quando eu estava aqui, foi de facto uma surpresa. No mundo houve grandes títulos, foi o Marcelo de Berganga, aliás, que preparou a primeira página do Le Monde, que era em grande parte dedicada ao 25 de Abril. Foi ele que preparou aquilo e ele estava bem informado. O Marcelo Berganga tinha os seus contactos em Portugal já desde há 11 anos.
E com os movimentos da libertação também.
Sim. Agora, o que diz é verdade. Aliás, foi talvez a razão que levou a que o 25 de Abril tivesse em França um impacto como raramente, como eu creio que não teve em qualquer outro país. Porque aqui em França, bom, quando se dá o 25 de Abril, os ecos do maio de 68 já tinham desaparecido. O Allende tinha sido assassinado um ano antes. A tentativa de Revolução Democrática em Praga tinha sido esmagada. O acordo de paz do Vietnã, da Guerra do Vietnã, que foi aliás assinado em Paris, punha fim a uma guerra que parecia interminável. Resultado, a intelectualidade francesa, nesta altura, estava em falência de grandes causas pelas quais se bater. E quando aparece o 25 de Abril, aquelas imagens começam.